Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel 106.8. Bienvenue dans l'émission Le Domaine du Possible avec Lynn. Chaque mois, nous avons rendez-vous pour découvrir des individus, des actions, des élans de vie qui donnent le goût d'avancer et de construire un monde meilleur. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maxime Audebourg, inventeur, concepteur de machines depuis l'enfance, passionné de forme et d'habitat, bâtisseur de lieux de vie ou encore père de 4 enfants, masseur, photographe. Cet homme aux multiples talents nous invite au pas de course ou de géant à oser inventer la vie dont nous rêvons en la créant concrètement et ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir t'interviewer. Je t'invite dans un premier temps à nous parler de ton parcours de vie.
Merci pour ce petite interview, pour cette proposition. Alors, en matière de parcours de vie, voilà, je suis fils de menuisier, petit-fils de forgeron, bricoleur et inventeur depuis tout gamin. J'ai toujours construit des machines et je me suis toujours intéressé à tout ce qui pouvait avoir du sens pour les hommes, pour le monde, pour demain. Tout début de ma carrière professionnelle, si on peut dire ça comme ça, j'ai été permanent du MRJC. Bon, MRJC, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne, à Chartres et sur l'Eure-et-Loir pendant 2 ou 3 ans, où au-delà de la réflexion et de tout ce qu'on a pu mener avec des jeunes sur le département, on a mis en place une activité de collecte des papiers, cartons et une activité d'insertion pour des jeunes en difficulté. C'était bien avant que ces activités de collecte sélective existent. On a été précurseurs dans ce domaine. J'ai ensuite travaillé dans un bureau d'études de machines spéciales. Là, on faisait des inventions du matin au soir dans tous les domaines, dans tout ce qu'on peut imaginer en termes d'activité, bien sûr pour des industries qu'on connaît, que ce soit en automobile ou en cosmétique, mais aussi pour des agriculteurs, pour des tailleurs de pierre, pour des écorceurs de bois, pour voilà, dans un tas de domaines. Et dans ce contexte-là, j'ai monté avec quelques associés une entreprise d'automatisme et de maintenance industrielle. Cette phase de ma vie a aussi été une phase d'entreprise au sens où on a démarré à quelques-uns et on s'est retrouvé à une 40aine de personnes au bout de 6 ans, avec tout ce que ça comporte en matière de gestion d'entreprise, de connaissance des humains et puis de manière de gérer un groupe d'individus et d'appliquer ce que j'ai pu aussi entrevoir, apprendre au collège coopératif, c'est-à-dire trouver les moyens d'une coopération entre les individus à l'intérieur d'une entreprise, sans avoir à faire une gestion parfaitement verticale, mais au contraire, essayer de travailler sur la manière dont chacun peut être responsable de son travail, de son activité, de la manière de bosser les uns avec les autres. J'ai aussi pendant tout ce temps fait beaucoup de sport et particulièrement du tandem. Le tandem, ça a été un peu aussi ce qui m'a porté pendant des années, donc avec des courses bien connues en Eure-et-Loir ou qui ont été bien connues en Eure-et-Loir dans ces périodes-là, des courses par équipe de 4 ou de 6. Là aussi c'était important parce que d'une part on fabriquait nous-mêmes nos tandems, on améliorait nos vélos et voilà, on faisait ces événements toujours en groupe et c'était un point important. Et après, nous sommes partis en Inde avec Marie, ma femme et nos quatre gamins. Voilà, pour faire peut-être une coupure et surtout vivre le voyage qu'on avait envie de vivre ensemble depuis déjà un certain temps. Et ça a été une année vraiment incroyable de vie en famille, mais aussi de vie avec d'autres, une autre culture, une autre manière de faire, d'autres rapports à la vie, à l'environnement, aux relations entre les gens. Et voilà, ça a aussi été un point important dans notre histoire. Et au retour d'Inde, nous avons créé avec quelques associés une entreprise, association à forme très coopérative qui s'appelle Rainette Verte pour la partie associative, Perche Activité pour la partie entreprise. Entreprise et association destinée à la promotion et à la valorisation des ressources locales du Perche, à savoir la pomme. Et on a développé au travers de ça, d'une part, des activités économiques pour les uns et les autres. L'association regroupe aujourd'hui plus de 500 familles qui viennent faire leur jus de fruits tous les week-ends pendant la saison de jus de fruits. L'entreprise Perche Activité a pris différentes formes, avec une forme en particulier technologie appropriée, qui a permis de développer des activités dans les pays du Sud. J'ai aussi travaillé à la mise en place de systèmes alternatifs, de formes d'entreprise, de formes de travail ou de regroupement alternatif, et notamment au sein du réseau Cressol, donc il y a un réseau d'économie solidaire en région centre que j'ai contribué à créer. J'ai été administrateur et président pendant plusieurs années de ce réseau, avec toujours pour idée de trouver des moyens et aussi des financements solidaires pour des porteurs de projets, pour des gens qui veulent se lancer dans une activité qui ne trouvent pas forcément de financement direct auprès des banques. Donc on a fait tout un travail d'accompagnement et technique, et économique et financier.
On s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement, on s'ennuie tellement. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors, 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 dehors. Marcher dans le désert, marcher dans les pierres, marcher des journées entières, marcher dans le désert. Dormir dehors, coucher sur le sable d'or, les satellites et les météores. Dormir dehors, il faut un minimum, une Bible, un cœur d'homme, un petit gobelet d'aluminium. Il faut un minimum. Si loin de la nature ici, le cœur durcit. On est si loin de l'air, on est si loin du vent, si loin du grand désert, si loin de l'océan. Alors la nuit quand je dors, je pars avec Théodore dehors, 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 dehors.
Marcher dans... Nous retrouvons Maxime Audebourg, inventeur de machines et porteur de sens. Mais au fait, comment trouve-t-on cet élan de faire bouger les lignes ?
Depuis ton enfance, ton adolescence, comment tu pouvais ressentir ? Quelles impulsions, quels éléments ont pu naître en toi pour que tu puisses exploser au niveau du monde? Bon. Participer clairement à la bonne marche du monde.
Alors en fait, moi j'ai toujours eu ce sentiment et cette, cette envie de faire changer les choses. Parce que j'ai toujours cru, que, et je crois toujours, que c'est possible de faire évoluer les choses. Alors quand j'étais très jeune, je pensais que ça pouvait se faire demain. Aujourd'hui, je pense que ça peut se faire un peu plus tard, qu'il faut plus de temps pour le faire et pour le réaliser. Mais j'ai toujours eu cette envie-là. Et au MRJC, l'idée, souvent l'idée de base, c'était de dire, bah tiens, voilà ce qu'on vit aujourd'hui, voilà ce qui va bien, voilà ce qui ne va pas, et comment on fait pour changer ce qui ne va pas, comment on peut améliorer les choses, par quel bout, etc. Et cette démarche-là, elle pouvait être vraie lorsqu'on était lycéen ou même au collège. Et puis, quand on arrive étudiant ou dans la vie active, on se pose toujours les mêmes questions et on peut toujours regarder les choses de la même manière en se disant, bah, finalement, est-ce que ce qu'on vit nous rend heureux? Parce que la question, c'est ça. C'est comment on peut se sentir bien, peut-être personnellement et collectivement, dans ce qu'on vit. Et si on a cette espérance-là, et cette utopie-là, comment on fait pour la rendre possible? Trouver la manière de faire bouger les choses sans se marginaliser et sans accepter tout ce que le monde nous propose. Est-ce qu'on a raison d'accepter la télé telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui? Sûrement pas, mais elle est là. Donc il faut faire avec, mais savoir ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. Et où on va. Enfin, si je prends cet exemple, c'est simplement parce que moi, j'ai jamais eu la télé, nos gamins par extension non plus, et que ce choix, par exemple, hein, qui est un exemple simple, nous a permis de faire un tas de choses qu'on n'aurait certainement jamais faites autrement. Et nos gamins ont été nourris de jeux, éventuellement de cours pris à l'extérieur, d'intérêt pour le théâtre, la musique et un tas de choses qu'on a permises au travers des choix qu'on a fait. Bon, c'est simplement pour expliquer sur un petit exemple tout bête comment, à partir de quelque chose qui est imposé par le système général, global, comment on peut regarder les choses autrement, refuser éventuellement et proposer d'autres choses. On a toutes les raisons de se poser la question de comment on fonctionne, pourquoi, et qu'est-ce qu'on a envie de faire, et qu'est-ce qui nous rend finalement heureux, et quels sont les possibles. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai aussi dans le domaine de l'entreprise, c'est vrai aussi dans le domaine de l'activité professionnelle des uns et des autres. C'est vrai dans les loisirs, dans les choix qu'on fait plus généralement dans la vie.
Maxime, à travers ton parcours de vie, on peut ressentir une grande sensibilité. Comment ton regard intuitif, tes mains et par extension, si j'ose dire, le cœur, ont pu dessiner les machines de demain?
Wow, ça c'est une super question. Disons que lorsqu'on donne un sens à ce qu'on fait, d'un seul coup, ça prend une autre dimension. C'est-à-dire que donner un sens, c'est savoir pourquoi on le fait et savoir à quoi ça correspond dans le monde, dans une perspective d'intégration dans le monde qui nous entoure. C'est une question qui n'est pas si simple. Parce qu'on peut être créatif ou créateur, et on devient véritablement créateur lorsque les créations que l'on fait prennent un sens, et que ce sens peut être vu, peut être interprété, peut être compris. C'est vrai pour un peintre, comme c'est vrai pour un artisan ou un inventeur de machines. Tout ça, c'est quelque chose qui, en fait, ne fait qu'un. Au-delà de ça, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la sensation, ou du travail qu'on peut faire sur la sensation, ou sur comment on perçoit, on ressent les choses. Alors ça, c'est un peu plus complexe à expliquer parce que ça se voit pas, ça se mesure pas, ça se définit pas. Mais on peut quand même dire que la sensibilité qu'on acquiert avec les mains ou avec le cœur au travers de ce qu'on peut ressentir de l'autre, des autres, dans un contexte, je sais pas comment dire, ça peut être vrai avec les humains, ça peut être vrai avec la nature, ça peut être vrai avec un tas d'états d'êtres où on peut rester, et moi il me semble que j'essaie de rester assez attentif à la sensation que j'ai lorsque je croise des gens, lorsque je suis dans la nature ou lorsque je suis devant un phénomène qui m'est inconnu. C'est-à-dire qu'au-delà de l'intellect, il y a un tas de fonctions qui entrent en jeu et qui sont vraiment intéressantes. Bon, je ne l'ai pas dit, je fais beaucoup de photos, j'aime bien dessiner. Et pour moi, c'est cette part expressive, c'est aussi la part d'expression d'un ressenti. Et ça, ça ne peut pas se déconnecter de la création, de l'invention et de la vie en plus général.
Est-ce que tu appelles ça la sensorialité ?
Oui, ça peut être la sensorialité, mais ça va au-delà des sens. Hein. C'est une espèce d'attention ou de concentration aussi. Ça peut rejoindre ce que les Indiens appelleraient une espèce de forme de méditation, où on essaie de percevoir, de se centrer et de faire sien ce qu'on a perçu. Et lorsqu'on a perçu et compris des choses, et ben on le redonne sous différentes formes, qui peuvent être artistiques ou moins artistiques, mais qui peuvent être orales aussi, qui peuvent être au travers de poèmes, qui peuvent être au travers d'un tas de choses, quoi. Ça passe par l'attention, la concentration et la sensation. Tout ça, pour moi, c'est lié.
Yeah.
l'envie et l'attention associées peuvent faire des merveilles. Maxime Audebourg nous raconte ses rapprochements avec les colibris et comment, à sa manière, il fait sa part en apportant une goutte d'eau douce.
Tu as pu rencontrer Pierre Rabhi, les colibris. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, moi, en fait, j'ai rencontré Pierre Rabhi bien avant que les colibris existent, et peut-être même bien avant que Pierre Rabhi commence à être connu. Alors, je crois qu'il avait écrit son premier ou ses deux premiers livres à l'époque où je l'ai croisé. Et en fait, il est venu à Chartres, on l'avait invité dans une conférence, et c'était le tout début de l'histoire de peut-être regarder autrement l'agriculture, qui était son sujet de prédilection, mais aussi le rapport qu'a l'homme à la vie, à l'argent, au monde, à son temps, au temps de travail, ou au temps pour faire d'autres choses. C'était le début d'une réflexion comme ça. Et avec lui, on avait parcouru, dans le cadre de cette conférence, un tas de choses qui touchaient à la fois de manière très très concrète aux questions agricoles et aux problématiques locales, etc. Et on touchait aussi à tout un tas d'autres aspects beaucoup plus philosophiques. C'était l'essence Pierre Rabhi au début de son parcours, lui aussi. Bon, il a ensuite évolué, depuis quelques années sont nés les colibris dont il est à l'origine. Mais les colibris, c'est plus vraiment Pierre Rabhi tout seul, c'est aussi tout un mouvement qui s'est mis en route et qui est un mouvement important. Pour moi, c'est un mouvement qui a un rôle fort en matière de sensibilisation et d'amener les gens à prendre conscience. Il y a de grands enjeux autour de ça. Il n'y a pas seulement la question des humains et de leur rapport entre eux. Il y a aussi toute la question toutes les questions écologiques qui sont portées par le mouvement. Bon, je pense qu'on partage assez bien avec Pierre Rabhi un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Moi, aujourd'hui, je travaille plutôt sur l'idée de réaliser et de faire en sorte que ces idées, qui peuvent être larges, qui peuvent être discutables et discutées, puissent prendre forme et véritablement s'incarner dans une réalité qui touche également du monde, mais de manière très concrète. Et c'est un peu le travail que je suis en train d'essayer de faire actuellement sur le dessalement d'eau de mer. Le dessalement d'eau de mer, pour moi, c'est un sujet qui peut paraître un peu étrange quand on est à Chartres et qu'on n'a pas la mer à proximité, mais c'est venu d'une réflexion, conjointe avec mon associé et co-créateur qui s'appelle Marc Vernier, qui lui-même a beaucoup travaillé dans le domaine de l'eau, de l'éolien et du solaire. On s'est rencontrés maintenant un peu plus de 4 ans et on a refait le monde. En fait, on s'est raconté qu'est-ce qu'on pourrait faire d'important et d'intéressant, compte tenu de ce qu'on connaît des pays du Sud, de sa connaissance à lui des besoins en eau et du rapport qu'il a avec l'eau, de ma connaissance à moi des machines, des équipements, de la manière de faire de l'osmose, des énergies renouvelables également. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Et il y a un besoin qui semble évident aujourd'hui, c'est le besoin des pays du Sud et de toutes les îles et de tous les pays qui ont des côtes arides. En général, ces pays-là ont du soleil, de la mer et rarement d'eau douce. Les pays qui ont de l'eau douce aujourd'hui sont les pays, on va dire, riches, en tout cas, qui ont les moyens, lorsqu'ils sont en situation de stress hydrique, ils ont les moyens de dessaler de l'eau de mer en utilisant les énergies conventionnelles, sachant que ces dispositifs sont très consommateurs d'énergie et que du coup, ça réserve la possibilité d'avoir de l'eau douce aux pays qui ont les moyens de cette énergie. Donc, on pourrait parler de l'Australie pour faire rapidement, on peut parler aussi des États-Unis et puis des pays du Golfe. Nous, on s'est dit, on va essayer de trouver une solution pour faire du dessalement, mais uniquement en énergie renouvelable. C'est-à-dire que l'énergie, il n'y aura pas à la payer. On utilise une technologie similaire aux technologies des gros systèmes. Cette énergie sera toujours gratuite. Ça, c'était la première donnée. La deuxième donnée, c'est qu'on ne peut pas faire de l'osmose inverse, théoriquement. Enfin, on ne pouvait pas jusqu'à présent faire de l'osmose inverse autrement qu'à flux constant, c'est-à-dire à énergie constante. Et c'est ce qui explique que seuls les pays qui ont de l'énergie puissent faire du dessalement d'eau de mer par osmose inverse. Donc on a inventé un système qui permet de faire de l'osmose inverse à énergie variable. Et ça, c'est véritablement notre invention. Ça révolutionne le monde de l'osmose inverse. Clairement, on peut dire ça. L'idée ensuite était de faire cette transformation d'eau de mer en eau douce en consommant le moins d'énergie possible pour limiter le nombre de panneaux solaires. Donc on a travaillé beaucoup sur la récupération d'énergie et un certain nombre de dispositifs qui permettent d'économiser l'énergie. Et ensuite, on a optimisé également nos consommations par des systèmes électroniques qu'on a développés spécifiquement pour ça. On est arrivé à faire un premier prototype en laboratoire à Chartres qui fonctionne avec 15 mètres cubes d'eau de mer qu'on a stocké dans notre atelier. Et de ce premier prototype, on a fait ensuite un véritable équipement qui est actuellement installé à Gantout aux Émirats Arabes, qui est une plateforme de test de système de dessalement par énergie renouvelable qui nous a donc accueillis. C'est normalement plutôt une plateforme de recherche, c'est-à-dire que les gens qui sont sur cette plateforme recherchent des procédés pour travailler en énergie renouvelable. Nous, on y est arrivé sans répondre à cet appel d'offres, puisqu'on avait déjà trouvé une solution et qu'on a été invité en fait par les gens de Masdar aux Émirats Arabes. Et puis, on a une deuxième machine en partance pour Bora Bora, mais qui sera destinée en fait à un motu qui s'appelle Mopiti, tout à côté de Bora Bora, où il y a un millier de personnes qui vivent avec quasiment pas de ressources d'eau. Voilà, et puis il y a une demande qui apparaît très très forte un peu partout sur la planète. On est sollicité dans tous les coins où il y a peu d'énergie, où il n'y a pas d'énergie, où l'énergie est très chère. Et donc le mètre cube d'eau dessalée est très cher. Donc voilà, on est en plein travail pour développer cette activité. L'entreprise est à Chartres, elle s'appelle Mascara. On a démarré à deux ou trois, on est une douzaine aujourd'hui et on développe ce procédé. Alors c'est un petit peu la synthèse de, je ne sais pas si c'est la synthèse de ma vie, mais un petit peu, puisqu'en fait on utilise des machines qui sont des machines spéciales dans un osmoseur qui s'appelle Osmosun et regrouper à peu près tous les champs technologiques que j'ai parcourus au cours de ma vie. C'est assez étonnant, mais bon, c'est un petit peu une synthèse. D'autre part, on travaille sur l'eau, qui est bien sûr vitale pour les populations qui sont concernées. L'eau, c'est le moyen pour faire en sorte que les gens restent sur place, ne viennent pas grossir les flux migratoires qu'on connaît déjà vers les grandes villes ou les bidonvilles. C'est le moyen pour éventuellement faire de la production locale et pour garder de la vie localement dans différents pays ou sur différentes îles. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant. On n'a aucun impact et aucune émission de CO2 au travers de ce que l'on propose. On rejette à la mer de l'eau sursalée, mais compatible, parce qu'elle est faiblement sursalée du fait de notre process. Ça, il faudrait rentrer dans le détail pour expliquer les choses. Je ne veux pas dire que c'est idéal, que c'est un projet idéal, parce que l'idéal, ça serait de répartir l'eau autrement sur la planète et d'avoir d'autres modes de consommation et de fonctionnement. Mais en tout cas, c'est une réponse à une réalité. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre et de proposer aujourd'hui.
En toute simplicité, concentration et humilité, je suis heureuse d'avoir rencontré Maxime. Je vous invite à découvrir toutes ou presque ses entreprises, dont vous trouverez les références sur le site de Radio Grand Ciel, émission Le Domaine du Possible. Je remercie chaleureusement Maxime Audebourg pour son partage de vie. Merci à Alexia et à Simon pour leur aide précieuse à la réalisation de cette émission. Retrouvez Le Domaine du Possible le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, une belle année 2017 et soyons créatifs !